Il est 7h35, c'est l'heure de la revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Et rarement le terme indéboulonnable n'avait eu autant de sens que ce matin en Israël.
Indéboulonnable, décidément, Benjamin Netanyahou, premier ministre depuis quasiment 14 ans, toutes époques confondues, aux avant-postes de la politique israélienne depuis 25 ans, cerné par les mises en examen pour fraude et corruption, mais plus que jamais homme fort de la droite et du pays. Dans le Jérusalem Post, on apprend donc que cette nuit, l'inoxydable Bibi, on va essayer quand même de varier le champ lexical, a remporté haut la main la primaire de son parti, le Likoud. La première fois en 5 ans que son leadership était contesté en interne, mais là où certains, le quotidien de gauche Haaretz, pour ne pas le citer, on va d'ailleurs le citer dans un instant, espéraient que ce serait le vote de trop pour Netanyahou, eh bien non, ils s'en tirent une fois de plus avec ce qui ressemble bien à un plébiscite. 72,5% des voix en sa faveur contre 27,5% pour son seul rival, l'ancien ministre Gideon Saar, qui avait quand même réussi l'exploit de mener une campagne encore plus à droite et encore plus anti-palestinienne. Bon, le Jérusalem Post remarque tout de même qu'on ne peut pas non plus parler de fol enthousiasme de la part des militants du Likoud. La participation à cette primaire n'a même pas atteint les 50%. Et c'est en partie à cause, nous explique-t-on, d'une décision prise par la direction du parti qui, au dernier moment, a obligé des milliers de ses militants à aller voter loin de chez eux. Ce qui en a sans doute dissuadé certains, tout comme le mauvais temps hier en Israël. Mais le résultat est là, et Benjamin Netanyahou n'a pas manqué de s'en féliciter, tout comme le Times of Israel qui parle d'une victoire par chaos avec reddition immédiate du perdant Gideon Saar, qui a juré de soutenir pleinement Netanyahou aux prochaines législatives le 2 mars prochain.
Et avec cette victoire, le Premier ministre consolide aussi son bloc de droite en vue de ce scrutin.
Oui, il refait le plein de confiance, il se réaffirme comme seul maître à bord et il fait oublier les affaires aussi qui lui collent à la peau. Tant mieux pour lui, c'est sûr, mais pour Israël alors. Comme je vous le disais, comme je vous le laissais entendre il y a une minute, cette victoire de Benjamin Netanyahou n'est pas vraiment ce qu'espérait Haaretz. Mais le quotidien ne peut ce matin que constater à quel point sa bête noire consolide son emprise sur tout le pays et à quel point le Premier ministre bénéficie d'un soutien apparemment inébranlable chez ses nombreux fans, soutien presque irrationnel ou en tout cas toujours plus fort à mesure que s'amoncellent les ennuis autour de leur leader adoré, comme si c'était eux désormais qui voulaient le protéger, ce Benjamin Netanyahou qui a toujours fait campagne sur l'idée qu'il était le meilleur rempart possible pour un Israël assiégé de toutes parts.
Israël qui voit sa situation politique plus bouchée que jamais.
Oui, le New York Times nous rappelle que les deux législatives d'avril et septembre avaient abouti à une incapacité, celle de la droite comme de la gauche, à obtenir une majorité stable pour former un gouvernement. Les Israéliens vont donc devoir revoter en mars, mais la seule manière apparente de sortir de l'impasse, eh bien, c'était que le Likoud, lui-même, en interne par la primaire d'hier, décide de tourner la page Netanyahou et de proposer autre chose aux électeurs. Ce n'est pas encore pour cette fois. Benjamin Netanyahou reste au centre du jeu politique, quitte à le bloquer pour encore longtemps. En mars, les Israéliens seront convoqués à leur troisième élection législative en un an, avec donc le même choix sur la table. Le risque, écrit Isabelle Kirchner dans le New York Times, c'est qu'il se détourne tout bonnement de l'élection. Mais tout n'est pas encore écrit sur un terrain judiciaire. En tout cas, la Cour suprême d'Israël doit dire mardi prochain si un candidat mis en examen pour des crimes graves, comme c'est le cas de Bibi, peut ou non se voir confier la tâche de former un gouvernement. Ce sont donc les juges et eux seuls qui semblent avoir encore le pouvoir de déboulonner Benjamin Netanyahou.
Et vous terminez votre revue de presse, Camille Magnard, avec une nouvelle rubrique, la rubrique jardinage.
Jardinière de balcon et paradis artificiel, en l'occurrence en Italie, où la Cour de cassation vient de légaliser le fait de faire pousser des plants de cannabis chez soi pour sa consommation personnelle. C'est un sujet qui faisait débat depuis des semaines de l'autre côté des Alpes et l'avenirait, la juge, choquante cette décision, cette jurisprudence qui met fin à des années de lignes dures suivies par la justice italienne, justice qui considérait que, quelle que soit la quantité cultivée ou la teneur en principe actif, la culture de cannabis était un crime et devait le rester. Tout ça, c'est donc du passé. La Cour de cassation a tranché et pour la Repubblica, c'est un tabou qui est en train de tomber en Italie. Celui de la légalisation in fine de la marijuana. Le quotidien semble la considérer, cette légalisation, comme inéluctable et souhaitable. La route sera encore longue, écrit Maria Novella De Luca, mais un mur vient de tomber qui dégage considérablement le chemin. Il faut dire, avec ce député du mouvement 5 étoiles cité par Il Fatto Quotidiano, que la situation était difficilement tenable. La loi italienne ne considérait plus depuis des années comme un crime le fait d'acheter du cannabis auprès d'un dealer en alimentant l'économie parallèle et en prenant présentant des risques pour sa santé quand c'était toujours un crime de cultiver et de fumer sa propre herbe. Il y a donc clarification. Il Fatto regrette qu'elle ait été apportée par les juges et non par des parlementaires jugés bien timorés sur ce sujet. Il faut dire que la Lega de Matteo Salvini avait fait de cette lutte contre la dépénalisation l'un de ses chevaux de bataille ces dernières années. Mais attention tout de même, Il Sole 24 Ore insiste sur le fait que les juges ont pris soin de préciser qu'il s'agit bien d'autoriser la culture et la consommation de cannabis à usage personnel en quantité minimale. On a déjà hâte de suivre les débats au Parlement pour fixer les apports journaliers recommandés les AJR en cannabis. On ne sait pas non plus si une brigade spéciale des jardins et balcons va voir le jour du côté des carabinieri.
Merci Camille Magnard, votre revue de presse est à retrouver sur franceculture.fr.